Vous êtes sur RTL.
L'info dans RTL Soir avec vous, Vincent Parisot.
Bonsoir à toutes et à tous. Oui, heureux de vous retrouver. C'est parti pour deux heures d'infos, effectivement. Avec à la une, la question du jour, puisque vous êtes nombreux à ne pas travailler en ce lundi de Pâques, faut-il encore supprimer un jour férié? Vous savez qu'Emmanuel Macron s'exprimera jeudi, après le grand débat. S'il reprend ses annonces de sa déclaration de lundi dernier, annulée en raison de Notre-Dame, il devrait parler de la nécessité de travailler plus. Mais alors, pourquoi faire et surtout comment? Invité d'RTL Soir, la députée En Marche, Aurore Berger, elle défend l'idée de l'abandon d'un jour férié supplémentaire. Et elle nous dira pourquoi dans 20 minutes. RTL Soir, première édition, c'est avec vous Céline Landreau, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et les autres titres?
Après les slogans pendant les manifestations, les tags sur une gendarmerie, de nouveaux appels au suicide des forces de l'ordre ont été découverts sur la façade du bâtiment de l'Andivisio. Vive émotion dans le Finistère. Des forces de l'ordre qui sont à la recherche d'un homme dans le Gard. Une joggeuse affirme avoir été violée ce matin par un autre coureur. Un Français figure parmi les victimes des attentats au Sri Lanka, c'est ce qu'annonce Colombo en accusant un mouvement islamiste local. Et puis CEA en grande difficulté, 14 magasins pourraient fermer en France. Les courses à Longchamp, en ce lundi de Pâques, il fallait jouer le 8, le 5, l'As, le 3 et le 10.
À 18h25, les coulisses de l'actualité, on vous emmènera en coulisses d'une réconciliation, celle des tenniswomen françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Elles étaient sœurs ennemies, fâchées, brouillées. Et finalement, en double hier, elles ont envoyé les Bleus en finale de la Fed Cup. À 18h30, ce sera Olivier Mazerolle. Ce soir, l'Europe en zone de turbulence. À 18h35, en ce lundi de Pâques, la star française de la pop Spi. Spi comme spirituel. En fait, la tête d'affiche de la scène chrétienne française. Il s'appelle Grégory Turpin. Après un parcours chaotique entre drogue et Carmel, eh bien, il connaît le succès même au-delà de nos frontières, puisqu'il chante pour la musique d'un film, La Voix du Pardon, qui sort en France le 22 mai après un très gros succès au box-office américain. À 19h15, évidemment, on refera Le Monde, comme chaque soir sur RTL. Et tout de suite, on parle du ciel, de la météo. Peggy Broche, demain, retour d'un temps instable sur les trois quarts du pays, c'est
exactement,
ça
Vincent. Dans la matinée, c'est autour de la Méditerranée et en Corse que le temps sera le plus perturbé, avec des averses localement orageuses et du vent. Sur la moitié ouest, les nuages vont dominer accompagnés de quelques averses. Et sur un large quart nord-est, un ciel calme mais voilé par endroits. Par contre, dans l'après-midi, les éclaircies vont résister uniquement des Hauts-de-France au Grand Est. Partout ailleurs, un ciel gris, du vent, des averses localement orageuses, des pluies plus soutenues près de la Méditerranée et de la grêle possible sur la façade atlantique. Tout ça sous des températures encore bien douces sur le nord-est, jusqu'à 26 degrés et de 17 à 23 ailleurs.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Suicidez-vous. Le slogan lancé aux forces de l'ordre avait déjà fortement choqué ce week-end lors de la manifestation des Gilets jaunes. Eh bien, il a aussi été tagué sur une gendarmerie du Finistère.
Oui, les inscriptions ont été découvertes ce matin à l'Andivisio, sur la façade du bâtiment, agrémenté de quelques fautes d'orthographe d'ailleurs. On pouvait notamment y lire « flic suicidé à moitié pardonné », des tags Guillaume Chies qui ont beaucoup choqué dans cette petite ville bretonne.
Oui, à l'image de Laurence Claes, elle est maire d'hiver droite de l'Andivisio.
Il faut pas banaliser, c'est inadmissible ce qui arrive. C'est inadmissible. Et je vois tous les Landivisiens qui sont passés dans la rue, qui ont vu ça ce matin, étaient indignés et révoltés en disant « il faut pas que ça continue, il faut que ça s'arrête tout ça ».
Et depuis, les agents de la ville ont sorti les rouleaux de peinture pour recouvrir les tags sur les murs de la gendarmerie. Des gendarmes qui, à l'image de leur commandant, le colonel Nicolas Duvinage, veulent faire savoir qu'ils ne sont pas impressionnés par ces slogans.
Les gendarmes n'ont pas peur. La première réaction, bien entendu, c'est la surprise, puisque des tags sur une gendarmerie, c'est pas fréquent, et puis des tags avec des mots d'une telle violence, c'est encore moins fréquent, bien entendu.
Et l'enquête, elle, vient tout juste de débuter. Des prélèvements ont été effectués, envoyés dans la foulée à l'IRCGN, le laboratoire de la gendarmerie situé à Pontoise. Une piste est particulièrement étudiée, celle d'un acte venant de la mouvance anarchiste. Des logos, des slogans anarchistes étaient tagués autour des inscriptions, mais les gendarmes n'écartent pas non plus la thèse d'un acte isolé, reprenant simplement les codes du mouvement anarcho-autonome.
Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Les gendarmes du Gard sont à la recherche d'un homme après le viol d'une joggeuse ce matin.
Oui, la femme d'une quarantaine d'années courait sur la commune de Saint-Alexandre quand elle s'est faite agresser par un autre joggeur, Patrick Tégéro.
Oui, il était environ 10h ce matin. L'agresseur a croisé sa victime sur un chemin de garrigue. L'homme aurait tenté d'abord d'engager la conversation, puis très violemment, il a provoqué la chute de la jeune femme avant de lui imposer un rapport sexuel et de prendre la fuite. suite. La joggeuse, âgée d'une quarantaine d'années, très choquée, s'est immédiatement rendue à la gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze. Un médecin a confirmé l'agression sexuelle. Les gendarmes n'ont pas d'indices. Pour l'instant, ils ont réalisé des prélèvements sur la scène de crime, mais ils disposent d'une description très précise du violeur. Alors, un portrait robot circule auprès de toutes les unités de gendarmerie des environs afin d'identifier ce quadragénaire inconnu dans le village.
Patrick Tégéraud pour RTL.
Toujours dans le Gard, une soixantaine de tombes ont été profanées la nuit dernière à Saint-Julien de Cassagnas, des croix cassées et renversées.
Il y a un Français parmi les victimes des attentats au Sri Lanka.
Oui, c'est en tout cas ce que viennent d'annoncer les autorités locales, information qui n'est pas confirmée à ce stade par le Quai d'Orsay. Plus de 290 personnes ont été tuées, 500 autres blessées lors des attaques coordonnées qui ont visé hôtels de luxe et églises hier. Toujours pas de revendication à ce stade, mais selon le gouvernement sri-lankais, c'est un mouvement islamiste local qui est responsable de ce bain de sang, Carole Dietrich.
Effectivement, et ce groupe, c'est le National Tawhid Jamaat. De lui, on ne sait que peu de choses. On sait tout au plus qu'il a récemment été lié à des actes de vandalisme sur des statues bouddhistes. Les autorités enquêtent sur une éventuelle aide étrangère afin de comprendre comment ce groupe, considéré comme une petite organisation, a pu mener des attaques d'une telle ampleur. Les autorités sri-lankaises sont assistées par le FBI américain et des agents d'Interpol doivent arriver dans le pays dès demain. Dans cette traque aux responsables qui s'est poursuivie tout au long de la journée, 24 personnes ont été arrêtées. 87 détonateurs de bombes ont été découverts dans la principale gare routière de la capitale et une explosion s'est produite lors d'une opération de déminage à proximité d'une église qui avait été endeuillée la veille. Et pour donner une plus grande marge de manœuvre à la police et à l'armée, l'état d'urgence a été déclaré et il prendra effet à partir de ce soir, minuit.
Voilà, Carole Dietrich, l'envoyée spéciale d'RTL au Sri Lanka. Et puis alors en Ukraine, il va maintenant falloir passer de la fiction à la réalité. Céline, le comédien Volodymyr Zelensky, élu largement, va devoir apprendre à gouverner.
Largement élu, effectivement, vous le disiez, avec 73% des voix. Hier, l'acteur qui a déjà incarné un président ukrainien dans une série télé est un débutant, en revanche, en politique. Cette virginité a séduit les électeurs, mais après ce hold-up électoral, Zelensky va devoir répondre aux espoirs qu'il a soulevés avec un programme qui reste, lui, toujours très flou, Stéphane Sioran.
Volodymyr Zelensky a convaincu 73% des Ukrainiens grâce à une campagne atypique, digitale, menée sur les réseaux, lors de laquelle il s'est présenté comme un homme issu du peuple et a promis de nouvelles pratiques politiques. Zelensky déclare s'engager pour un seul mandat de 5 ans. Il veut instaurer une loi sur l'impeachment du président, supprimer l'immunité parlementaire des députés et il a même demandé aux citoyens de participer sur Instagram à la rédaction de son programme. Une façon de faire populiste qui plaît à beaucoup de jeunes, mais aussi à Violetta, une activiste de la société civile qui a décidé de faire confiance à Zelensky.
Il n'a pas fait de la politique pendant 20 ans, mais comme il était toujours au contact avec le public, il sent bien, il a intuitivement, il propose quand même de mettre en place des formes de démocratie directe. Par exemple, quand il dit « digital démocratie » et quand il dit que beaucoup de décisions doivent se prendre en utilisant les smartphones et en mobilisant un grand nombre de gens, et ça va dans le sens de à quoi aspirent aussi les Ukrainiens.
Cependant, Volodymyr Zelensky n'a absolument pas expliqué comment il comptait s'y prendre pour mettre en place ces mesures. D'ailleurs, il ne dispose d'aucune majorité au Parlement. Il va donc devoir faire très attention pour ne pas créer de déception à la hauteur de ses ambitions.
Stéphane Sioran, le correspondant d'RTL en Ukraine. On marque une courte pause et puis on se retrouve avec la suite du journal de Céline Landreau, notamment avec ces menaces qui pèsent sur les magasins CEA. A tout de suite.
RTL Soir, il est 18h08. RTL Soir. Il est 18h10, RTL Soir avec Vincent Parisot et la suite du journal de Céline Landreau.
Sérieuse inquiétude donc chez CEA. La chaîne de prêt-à-porter s'apprête à fermer des magasins français.
Oui, 14 selon le syndicat Force Ouvrière qui dit avoir été prévenu par la direction jeudi dernier. 14 fermetures donc et 120 suppressions de postes à la clé, Éric Vanier.
Oui, car cette fois, contrairement aux années précédentes, il ne s'agit plus de cession de magasins avec reprise du personnel, mais bel et bien de fermeture avec des salariés laissés sur le carreau. Maria Rodriguez est la déléguée force ouvrière du groupe. Elle ne s'attendait pas à une telle annonce.
C'était une surprise parce qu'en janvier, l'ancien directeur nous a dit qu'on ne fermait plus de magasins et que des PSE, on n'en ferait pas parce que l'entreprise n'avait pas les moyens. Et là, au mois d'avril, on nous annonce un PSE concernant 14 magasins et 120 personnes. Donc, c'est vraiment des fermetures, hein, avec suppression d'emplois à la clé. Je n'y attendais pas du tout. Ils nous ont quand même dit qu'il y avait 40 magasins dans le rouge. Hein.
À l'origine des difficultés de l'enseigne néerlandaise implantée en France depuis les années 70, son concurrent H&M, qui lui a grignoté des parts de marché, et les nouvelles formes de vente avec Internet et des marques qui viennent renverser la table en cassant les prix comme Primark, CA a du mal à résister.
Éric Vanier pour RTL. Après un week-end pascal au Touquet, c'est bien sûr une semaine cruciale qui va s'ouvrir à partir de ce soir et de demain, surtout pour Emmanuel Macron.
Car le chef de l'État présentera jeudi ses réponses au grand débat, une conférence de presse à 18h, la première à l'Élysée depuis le début du quinquennat. RTL vous révélait dès la semaine dernière ce qu'Emmanuel Macron prévoyait d'annoncer lundi dernier, avant l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et parmi les grands axes présidentiels, demander aux Français de travailler davantage, une idée relayée encore ce matin par Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche pour les Européennes. Bonsoir Benjamin Sportouche.
Bonsoir.
Le président devrait donc demander jeudi aux Français de travailler plus, mais comment d'abord et pour financer quoi?
Alors financer quoi, on le sait, Emmanuel Macron le dit clairement dans le discours qu'il devait prononcer la semaine dernière, il s'agit de compenser la baisse des impôts pour les classes moyennes qu'il souhaite significative. En revanche, pour le comment, les modalités de se travailler davantage, le chef de l'État ne donnait aucune piste et les hypothèses, eh bien, sont nombreuses. L'abandon des 35 heures, par exemple, mais on imagine mal le président ouvrir ce chantier titanesque et très clivant. Autre piste possible, l'augmentation des années de cotisation retraite. Et des ministres comme Gérald Darmanin au budget défendent au sein même du gouvernement cette hypothèse. Enfin, dernière possibilité, la suppression d'un jour férié, comme ce fut déjà le cas avec le lundi de Pentecôte. Alors ces deux petits mots, travailler davantage avant même d'être confirmés, peut-être jeudi par Emmanuel Macron, ont déclenché 1000 réactions politiques. La gauche notamment ne veut pas en entendre parler, remous également dans la majorité où les avis sont partagés. Quant aux Français, eh bien, ils sont majoritairement hostiles à l'idée de travailler plus, à 54% selon un sondage publié hier dans le journal du dimanche. Donc si le chef de l'État s'engage sur ce chemin, eh bien, le débat risque d'être pour le moins agité.
Benjamin Sportouche du service politique d'RTL, et on en parlera tout à l'heure puisqu'on sera avec les députés En Marche Aurore Berger dans 7-8 minutes. En tout cas, pour l'instant, ce lundi de Pâques, il est bel et bien férié. D'ailleurs, vous avez été un certain nombre à en profiter aujourd'hui.
Hein. Sous le soleil, pour les plus chanceux d'entre vous, c'était le cas à Bordeaux, notamment Jean-Marc Terrier, où les quais de la Garonne étaient pris d'assaut.
Paul et son épouse, appareil photo en bandoulière, immortalisent les vieilles pierres bordelaises. Ils arrivent tout droit de la Côte d'Azur.
Saint-Raphaël.
On a commencé le week-end pascal par un mariage près de Toulouse. Et comme on ne connaissait pas Bordeaux, on s'est dit on va pousser, on va faire 250 km de plus et on va découvrir Bordeaux.
Sophie en a profité, elle, pour essayer sa toute nouvelle trottinette.
C'est sympa sur les quais, avec le vent, tout ça, c'est sympa. Et on était à deux.
À deux dessus.
À deux sur la trottinette.
Ce qui n'est pas vraiment conseillé. Quant à Lucie, en ce lundi pascal, c'est en double programme.
Et tout cinéma, vu que c'était très calme, on devrait profiter.
Ben là, je suis en train de rentrer, oui, tout doucement.
Voilà. Un lundi de Pâques.
Ouais, en marchant tranquillement.
Vous avez trouvé des œufs?
Non, j'en mange pas.
À quelques mètres de là, face au miroir d'eau, ce sont des notes de musique qui attirent les curieux. Rythme latino et danse atypique pour Mario et ses amis.
On est tous des passionnés de bachata ici. Et...
Bachata, c'est quoi?
Ah, bachata, c'est une danse latine, un peu comme la salsa. Lundi férié, donc on se donne rendez-vous ici, en plein air. Ah ben là, ça change, forcément. Et c'est pas tout à fait du boulot, non? Ça change du bureau, c'est sûr.
Jean-Marc Terrier à Bordeaux. Donc Jean-Marc qui chasse les œufs sur les quais de la Garonne. On va lui dire que c'est peut-être
et
pas
les danseurs.
Voilà, et les danseurs, effectivement. Merci beaucoup. Vous revenez à 18h30, Céline.
Sans faute.
Rendez-vous est pris. Et maintenant, les clés pour bien comprendre l'actualité. Au terme de 18 jours d'une nouvelle garde à vue, Carlos Ghosn a donc de nouveau été mis en examen ce matin pour abus de confiance aggravé et une nouvelle fois placé en détention provisoire. Ses avocats ont d'ailleurs déposé une demande de libération sous caution, mais on commence quand même, c'est vrai, à être un petit peu perdu par la multiplication des procédures contre l'ancien patron de Renault-Nissan. Alors on est avec notre correspondant à Tokyo. Bonsoir Philippe Dova.
Bonsoir Vincent.
Alors faisons le point avec vous sur cette accumulation d'accusations et de mises en examen.
Alors Carlos Ghosn a été mis en examen pour la première fois le 10 décembre dernier pour avoir dissimulé aux autorités boursières japonaises une partie de ses rémunérations entre 2010 et 2015. Une première mise en examen suivie d'une seconde pour les mêmes motifs pour la période allant de 2015 à 2018. Le 11 janvier dernier, les procureurs mettent Carlos Ghosn une troisième fois en examen Pour abus de confiance aggravé, il le soupçonne en effet d'avoir fait payer par Nissan ses pertes personnelles à la suite de la crise financière de 2008.
Et puis il y a aussi cette quatrième mise en examen qui vient de tomber, c'est peut-être la plus grave.
Cette quatrième mise en examen porte à nouveau sur un abus de confiance aggravé plus, car cette fois Carlos Ghosn est accusé directement d'enrichissement personnel d'un montant de 4,5 millions d'euros au détriment de Nissan. Nissan a d'ailleurs déposé une plainte pénale aujourd'hui contre son ancien patron en qualifiant son comportement d'inacceptable et en réclamant de sévères sanctions. Depuis son arrestation, Carlos Ghosn n'a de cesse de clamer son innocence et de crier au complot. Ses avocats ont déposé une nouvelle demande de libération sous caution de leur client auprès du tribunal de Tokyo aujourd'hui. Demande qui devrait être examinée à partir de demain, mais rien n'est gagné. Pour autant, dans une conférence de presse ce soir, le procureur général adjoint de Tokyo, Shin Kukimoto, s'est dit confiant d'avoir réuni suffisamment de preuves de la culpabilité de Carlos Ghosn dans les quatre mises en examen. Chaque chef d'inculpation peut entraîner une condamnation à 10 ans de prison, mais comme au Japon, les peines ne sont pas cumulables, Carlos Ghosn encourrait une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement s'il était reconnu coupable à l'issue de son procès.
Les clés de l'actualité étaient signées Philippe Dova à Tokyo pour RTL. Allez, à suivre. Aurore Berger, la députée La République En Marche, elle défend la proposition de son parti d'une nouvelle journée de solidarité, notamment pour financer la prise en charge de la dépendance. Elle se dit même persuadée que les Français sont d'accord. Alors, est-ce qu'il faut travailler plus, supprimer un jour férié? Est-ce que ce sera suffisant? On lui pose ces questions dans un instant.
18h17, RTL Soir.